It's Morning Edition from NPR News.
That city is unbeaten.
France Inter, le 18-20.
L'Europe dit son soulagement après la réélection d'Emmanuel Macron. Tout le monde, vous l'entendrez, a eu peur d'un changement radical et d'un rassemblement national qui aurait bouleversé les équilibres à Bruxelles. Emmanuel Macron attendu quand même aussi par les Européens. On verra cela dans un tout petit instant avec nos correspondants. Le bruit du monde, le lundi, ce sont les notes vocales d'Ukraine de Caroline Gillet. Avec Anastasia, qu'on n'a pas entendue pendant 15 jours, qui nous a fait peur aussi. Vous allez entendre son histoire et ce qu'elle a traversé ces derniers jours. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Sébastien Eugénie a trouvé un tribunal allemand qui juge des crimes commis en Gambie. Le Nicaragua qui s'isole dangereusement. Et une chef non-bouddhiste devenue la coqueluche des cuisines. 18h50, le monde selon Joe Biden qui a parlé à Emmanuel Macron juste après son élection. Loïc Loury aussi nous racontera qu'on reparle beaucoup midterm aux États-Unis en ce moment. 18h55, le monde d'après de Claude Guibal avec ce rapport sur les ventes d'armes qui se portent très bien. Merci, est-ce bien étonnant? Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde.
Il va sans dire que l'Europe a observé avec beaucoup d'attention l'épilogue de cette élection française. Majoritairement, c'est un soupir de soulagement, notamment parce que Marine Le Pen souhaitait prendre ses distances avec l'Europe, entendait remettre en cause aussi le couple franco-allemand. C'est pour ça que c'est par là qu'on va commencer. Bonsoir Nathalie Vercieux.
Bonsoir.
Avec nous depuis Berlin, bien sûr, nous irons en Italie dans un instant, on ira à Bruxelles également, et puis en Grande-Bretagne, même s'il ne nous a pas échappé que la Grande-Bretagne avait quitté l'Europe. Nathalie, beaucoup de tweets très vite hier soir, dans l'heure qui a suivi le résultat, beaucoup de soulagement affiché chez vous en Allemagne, on était apparemment très nerveux en fait.
Oui, en fait, les Allemands voyaient déjà un scénario catastrophe, type les élections américaines avec Donald Trump ou bien encore le Brexit. Avec Le Pen au pouvoir, l'Allemagne perdrait son principal allié, constatait le quotidien des affaires Handelsblatt à la veille du second tour. Soulagement aussi, car selon la presse allemande, Marine Le Pen est l'Allemagne. Il y avait donc de grandes craintes que, en cas de victoire du Front National ou l'ancien Front National, le tandem franco allemand ne soit remplacé par une alliance des antidémocrates en Europe avec Viktor Orban.
Et alors, avec le premier appel donc et la première visite à venir pour Olaf Scholz, et donc une manière justement de dire pas de changement de ce côté-là, le couple est solide, c'est ça que ça veut dire ?
Oui, effectivement, Olaf Scholz avait officiellement affiché son soutien à Emmanuel Macron dans le cadre d'une lettre ouverte, ce qui avait provoqué une mini-polémique ici sur l'immission dans la politique française. C'est une démarche tout à fait inhabituelle qui en dit vraiment long sur les inquiétudes du scénario Marine Le Pen, mais aussi du fait que l'Allemagne souhaitait absolument la victoire d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, seul le parti d'extrême droite AfD déplore le choix des Français dans les urnes.
Alors Nathalie, il n'a pas échappé à l'Allemagne évidemment que le score d'Emmanuel Macron n'était pas seulement un vote d'adhésion, donc il sera incité à pousser ses objectifs pour pousser aussi son électorat. Est-ce que c'est compatible avec l'Allemagne ça? Est-ce que c'est déjà une crainte qu'on sent poindre?
Oui, on le sent tout à fait. Par exemple, le Handelsblatt, le quotidien des affaires, estimait ce matin qu'avec Macron 2.0, on aurait affaire à un partenaire difficile pour l'Allemagne. Le risque, c'est que l'Allemagne perde son partenaire le plus important, tout simplement, et ça n'est pas écarté ici. Les Allemands apprécient son engagement européen, mais ils redoutent qu'il n'ait pas les coudées franches à cause des législatives. Ils risqueraient même, on l'a d'ailleurs fait jusqu'ici, on l'a vu jusqu'ici, une politique européenne qui va avant tout dans le sens des intérêts français pour l'énergie. France pour la politique budgétaire. Et donc, on dit qu'il y aura beaucoup de travail pour Olaf Scholz.
On entend aussi en creux, et ce sera la dernière question avant qu'on se retrouve d'ailleurs un petit peu après, Nathalie. On entend chez vous une inquiétude sur le long terme, c'est-à-dire une sorte de France en sursis. Cette fois-ci, le Rassemblement national n'est pas passé, mais la prochaine fois, ça dira quoi ?
Oui, alors tout à fait. Il y a vraiment l'idée que le parti unique au centre que entraîne en fait qu'il n'y a pas d'alternance possible à part le choix des extrêmes. Ce scénario avait déjà inquiété en Allemagne avec Angela Merkel et les Verts s'inquiètent vraiment tout à fait de la banalisation du discours de l'extrême droite. La grosse inquiétude, c'est vraiment sur les institutions et pour les Allemands, il faudrait absolument une réforme du mode de scrutin pour assurer une meilleure représentation représentation, une représentation plus juste des différents courants politiques en France.
Nathalie Vertu, vous allez revenir dans un petit instant. Je voudrais qu'on fasse un tour. En fait, on parlait de soulagement, donc on l'a entendu pour les Allemands. Soulagement, de toute façon, pour l'Europe en général. Bonsoir, Angélique Boin.
Bonsoir.
Avec nous depuis Bruxelles. C'est vrai que là aussi, les félicitations sont venues vite. Et là encore, à la hauteur de la crainte que suscitait cette élection.
Oui, et c'est le quotidien belge Le Soir hein, qui résume, je trouve, en fait, le mieux le sentiment général. Le pire a été évité. Immense, intense soulagement, peut-on lire à la une de ce journal, qui rappelle que la perspective qu'une présidente d'extrême droite s'empare du pouvoir en France avait suscité ici une énorme angoisse. Nous pouvons compter sur la France 50+, hein, s'est réjoui Charles Michel dans un tweet hier, le président du Conseil, qui représente les États, et qui a félicité son ami avec une formule très directe. Chaleureux, bravo, cher Emmanuel Macron. En cette période mouvementée, nous avons besoin, écrit-il encore, d'une France engagée pour une Union européenne plus souveraine. Je me réjouis de pouvoir continuer notre excellente coopération, a renchéri la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui écrit « Ensemble, nous ferons avancer la France et l'Europe ». Alors, à la tête du Parlement européen, Roberta Metsola, interrogée par l'Express, a estimé aujourd'hui que cette victoire confirme l'ambition pour une Europe qui se donne, je la cite, les moyens d'agir. Voilà un leadership fort qui est essentiel en ces temps incertains. C'est ce que souligne de son côté Christine Lagarde qui dirige la Banque Centrale Européenne. On retenait donc son souffle ici hein, dans les institutions où l'on estime en fait que l'Europe est sur la voie d'une transformation profonde au rythme des crises hein, qui la bouscule depuis 2 ans, Covid, guerre en Ukraine et que, eh bien, avec Emmanuel Macron, le soufflet ne va pas retomber.
Et puis il y a une autre bonne surprise au fond côté européen, côté pro-européen, ce sont les élections législatives en Slovénie.
Ah oui, autour de la table du Conseil, non seulement il n'y aura pas de fauteuil pour Marine Le Pen, hein, qui aurait été un allié de poids pour les populistes eurosceptiques, mais en plus, l'un des membres de ce club très restreint a pris la porte hier soir. Il s'agit du trublion slovène, le Premier ministre Janez Janša, remplacé par un jeune entrepreneur de centre-gauche, écologiste et pro-européen. Janez Janša, c'était un ultra-conservateur, grand admirateur de Trump. Il n'avait de cesse d'étriller les bureaucrates trop payés, disait-il, de la Commission. Il était d'ailleurs dans le collimateur de Bruxelles hein, pour ses atteintes répétées à la liberté de la presse et à l'indépendance de la justice. Et puis c'était un proche, vous ne serez pas surprise Fabienne, du dirigeant nationaliste hongrois Viktor Orban. Mm-hmm. Orban qui risque donc de se retrouver plus isolé, hein, notamment depuis la guerre en Ukraine, qui l'éloigne de son allié polonais. Orban qui aurait sans doute rêvé d'avoir Marine Le Pen à ses côtés et de conserver le Slovène à la table du Conseil où tant de décisions, on le rappelle, se prennent à l'unanimité des 27. C'est donc raté. Mmh. Et ici, vous l'imaginez, personne ne s'en plaint. À cette heure, Fabienne, d'ailleurs, Orban est l'un des rares dirigeants à ne pas avoir félicité Emmanuel Macron. Tout est dit.
Et merci beaucoup, Angélique Boin, avec nous depuis Bruxelles. Bonsoir, Bruce de Galzin.
Bonsoir.
À Rome, avec nous, Bruce. On parlait de couple tout à l'heure avec Nathalie Vertu, avec l'Allemagne. Mais c'est aussi de votre côté qu'on parle de couple, en fait, parce qu'on a bien vu que quelque chose était en train de se forger entre les Français et les Italiens. Est-ce qu'on dit la même chose? On dit soulagement depuis l'Italie, j'imagine.
Ah, on dit, mais c'est même une merveilleuse nouvelle, una splendida notizia, c'est pour l'ensemble de l'Europe. Ce sont les mots de Draghi, quand même. Et donc, il salue cette victoire, parce qu'en effet, il y a une relation spéciale qui s'est construite petit à petit, assez vite d'ailleurs, hein, entre Mario Draghi et Emmanuel Macron. Et ils ont signé le traité du Quirinal, ça c'était en décembre dernier. C'est important, hein, parce que c'est l'équivalent du traité franco-allemand, quand même. Et puis, le président du Conseil italien, il est convaincu que la victoire du président Macron va donner un nouvel élan à cette relation spéciale. Ce sont quand même deux hommes qui ont une foi d'ultra-européens chevillée au corps.
Alors, nouvel élan, est-ce que ça veut dire aussi volonté de supplanter l'Allemagne? Parce qu'on a bien vu la faiblesse de Olaf Scholz sur un certain nombre de choses. Donc, supplanter l'Allemagne sur le dossier du pacte de stabilité, sur le dossier de l'Europe de la défense, par exemple.
Bah, on le dit jamais comme ça, hein, ça c'est sûr. Mais en effet, on sent bien que l'idée, c'est qu'il faudrait plus compter sur le seul couple franco-allemand, mais sur une sorte de triangle. Paris, Berlin et Rome. Et pour Draghi, c'est important. Et sur, en effet, plusieurs dossiers, vous en avez cité deux. Alors, les nouvelles règles budgétaires, c'est essentiel. Et là, pour le coup, l'Italie et la France sont toutes les deux d'accord. Elles veulent assouplir les règles budgétaires, notamment à cause de la guerre en Ukraine. Hein, au point que ici, on soutient vraiment l'idée lancée par Macron, en mars dernier, par Emmanuel Macron, d'un nouveau plan de soutien à l'économie, hein, en raison de la guerre. Parce qu'en Italie, on s'inquiète beaucoup de la spirale inflationniste et de la récession. Le deuxième dossier, c'est l'élargissement de l'Union européenne. Et là aussi, on est d'accord. Hein, on parle on parle que de l'Ukraine en ce moment, mais en fait, il y a le dossier des Balkans qui reste ouvert, et la volonté italienne, c'est d'élargir un peu plus l'Europe. Il y a l'immigration, ça c'est quand même essentiel pour les Italiens, il y a une volonté de mettre en place un mécanisme qui sera un peu plus solidaire pour redistribuer, permettez-moi l'expression, les réfugiés. Et puis bien sûr, ce que Draghi définit comme la communauté européenne de défense, hein, et c'est depuis des années le rêve de d'Emmanuel Macron, bien avant la guerre. Et bien là, avec la menace de Vladimir Poutine, cela peut prendre corps, tout en ménageant l'OTAN, et ça c'est très important pour Mario Draghi. L'Italie est encore très atlantiste.
Une dernière chose, avant de vous retrouver d'ailleurs peut-être après Bruce, l'Italie, ce sont les prochaines élections, les prochains qui votent, c'est dans un an quasiment pile, c'est au printemps 2023. Est-ce qu'on regarde chez nous comment les partis traditionnels ont explosé? Est-ce qu'on pense à la campagne future en Italie en regardant la nôtre?
Ah oui, ça c'est très intéressant parce que aussi bien à droite qu'à gauche, on regarde les dynamiques en France, on essaie de tirer les leçons de ce qui s'est passé en France. Alors si on regarde à gauche, on a le Parti démocrate d'Enrico Letta, qu'on connaît bien à Paris notamment, qui se voit lui en marche, si j'ose dire. Il voudrait représenter le courant réformiste. Enrico Letta, c'est intéressant parce qu'il a analysé le vote des Français. Il estime que la politique étrangère finalement a eu assez peu d'influence parce que le poutinisme de Marine Le Pen a pas empêché les Français d'aller voter pour elle. Et donc, il est déjà en train de se concentrer sur l'économie, sur le pouvoir d'achat, et il milite pour le fonds européen dont je parlais à l'instant. À droite aussi, c'est assez intéressant, Fabienne, parce que la droite, elle est largement en tête dans les intentions de vote. Ici, c'est pratiquement 50% des intentions de vote. Et c'est le petit parti de Silvio Berlusconi, qui reste tout de même très influent, qui met en garde. Si la coalition de droite n'est pas pro-européenne, eh bien, le scrutin français nous enseigne qu'on peut pas gagner. Donc, c'est un message qui est lancé à Salvini et à Giorgia Meloni, qui, elle, n'est pas au gouvernement, mais qui est très anti-européenne. Donc, on va voir assez vite, en fait, comment Matteo Salvini se place, parce qu'actuellement, il est au gouvernement et ses ministres travaillent très bien avec leurs homologues. Donc, il va sans doute devoir se démarquer. On va comprendre qui prend la tête de la coalition. Mais ce qui est intéressant, Fabienne, c'est l'interrogation aujourd'hui, c'est de savoir si ces partis d'extrême droite, eh ben, elles vont se recentrer sur l'Europe.
Bruce de Gelsin avec nous depuis Rome. À tout de suite, dans un petit instant, je voudrais quand même qu'on aille faire un aller-retour rapide à Londres. Bonsoir, Richard Place.
Bonsoir.
Alors, il nous a pas échappé que la Grande-Bretagne avait quitté l'Europe, Richard. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on a vu arriver des félicitations qui étaient extrêmement sobres de la part de Johnson. Ces deux-là ne s'entendent pas avec Macron, c'est un fait, et on n'a pas fait semblant.
Oui, et Boris Johnson, pourtant la sobriété, c'est pas sa première qualité d'habitude, mais là, son tweet, il l'a fait en français et en anglais. En français, la France est l'un de nos alliés les plus proches et les plus importants. Je suis heureux de continuer à travailler ensemble sur les sujets clés pour nos deux pays et le monde. Point final. On n'en fait pas plus, on n'en rajoute pas, et de manière officieuse, les ministres ici espèrent surtout que c'est la fin de ce qu'ils décrivent comme du Brit-bashing. Ils considèrent qu'Emmanuel Macron et son gouvernement ont utilisé la rivalité ancestrale entre les deux pays pour faire cette campagne présidentielle depuis un an sur tous les sujets de tension, et il n'en manque pas. Londres pointait du doigt les visées électoralistes du camp Macron, et ce message passe plutôt bien dans la population anglaise, en particulier chez les Brexiteurs, bien sûr. La majorité conservatrice souhaite donc revenir à une relation plus apaisée et plus constructive désormais. C'est le message qu'elle fait passer, en tout cas.
Et alors, en tout cas, il y a eu, Richard, des motifs de friction, c'est le moins qu'on puisse dire, ces derniers mois. L'histoire des sous-marins, évidemment, l'histoire des pêcheurs, et c'est toujours en cours, les migrants entre Calais et l'Angleterre, enfin, il y a 1000 sujets de controverse qui ne sont absolument pas fermés, d'ailleurs.
Absolument pas, au point, par exemple, sur les migrants, que la ministre britannique de l'Intérieur n'avait pas été invitée à une réunion sur le sujet qui se déroulait en France, qui était une hérésie, même sur le principe que la Grande-Bretagne n'y participe pas finalement à cette réunion. Mais ça montrait bien à quel point il y avait une tension entre les deux diplomaties. Le dossier de la pêche pollue toutes les négociations post-Brexit. Il les avait déjà polluées avant la sortie du Royaume-Uni de l'Europe. Sur ce sujet, d'ailleurs, la France exige des licences de pêche, et les Britanniques répondent « Nous, nous appliquons la règle, et seulement la règle ». Et c'est exactement la réponse que fait la France au Royaume-Uni sur l'Irlande du Nord. Le désormais célèbre protocole de sortie de l'Europe n'est pas appliqué là-haut, en tout cas pas complètement. Londres menace d'ailleurs de ne jamais le faire, et Paris fait régulièrement les gros yeux. Et puis, il y a plein de petites blessures d'orgueil, et ce ne sont pas les moins graves. Quand Clément Beaune finit par s'agacer et qu'il dit que le gouvernement anglais ne comprend que le langage de la force, ou pire, quand Emmanuel Macron a émis des doutes sur le vaccin AstraZeneca fleuron national, tout ça, ça laisse des traces.
Donnez-nous une petite idée rapidement, Richard, parlez-nous des extraits des tabloïds, par exemple. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on a dit là à la victoire, à la réélection d'Emmanuel Macron?
On s'est beaucoup moqué pendant la campagne d'Emmanuel Macron, et en particulier de cette photo avec la chemise ouverte et le torse velu, ça, ils en ont fait leur chou gras. On ne peut pas dire aujourd'hui que ça déclenche la joie d'aucun journal de voir l'élection d'Emmanuel Macron. Et on voit dans le Daily Mail, par exemple, une description de Macron et de son équipe comme anti-britannique. Il est présenté comme un clown, faisant référence à une phrase qu'il aurait lui-même prononcée parlant de Boris Johnson. Dans le Télégraphe, un peu plus sérieux, un éditorialiste écrit que les esprits peuvent désormais se calmer, mais un rapprochement est peu probable tant que la confiance n'est pas progressivement rétablie. Et puis pour revenir au très sérieux, le Times, cette fois, résume tout ça en disant qu'entre Bojo et Macron, c'est une relation tendu et que ça ne va pas se détendre là tout de suite.
Richard, vous avez 30 secondes pour cette prochaine question. Et j'ai quand même cette curiosité. Est-ce que en creux, vous avez le sentiment que Boris Johnson aurait eu envie de Marine Le Pen à la tête de la France, ne serait-ce que pour déstabiliser un petit peu l'Europe? Voir beaucoup d'ailleurs.
Alors ça, c'est une question évidemment très compliquée. Boris Johnson ne s'est jamais mouillé officiellement sur le sujet. Sur la politique intérieure française, il se garde bien d'y mettre les pieds, ni même un orteil. Sur Marine Le Pen, dans son camp, c'est clair, il y a des gens qui auraient aimé voir arriver Marine Le Pen parce qu'ils sont arrivés à un point de détestation d'Emmanuel Macron qui les faisait penser que c'était la bonne solution. Et puis il y a, dans son propre camp, parmi les conservateurs, des gens qui ont vraiment des convergences de vues avec le Rassemblement National. C'est très clair. Pour ce qui est de Boris Johnson, ça semble beaucoup moins clair parce que il y a toujours cet adage qui revient, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Donc voir partir Emmanuel Macron et avoir arrivé Marine Le Pen, ça aurait pas forcément été une bonne nouvelle pour lui non plus.
Merci beaucoup Richard Place avec nous depuis Londres. Je voudrais qu'on retourne très très rapidement s'il vous plaît tous les deux en Allemagne et en Italie. J'aurais savoir ce qu'on dit de l'après sur la manière dont le président français doit éventuellement même changer de style. Est-ce que ça figure dans vos discussions chez vous, Nathalie Versu, à Berlin par exemple?
Oui, alors bon, c'est sûr qu'au soir du débat, beaucoup l'ont trouvé beaucoup trop arrogant. Il est difficile de le comprendre, facile de le haïr. C'est le ton de la presse ici. En fait, c'est un style qui passerait pas du tout en Allemagne. Il n'y a qu'à se souvenir de la longévité d'Angela Merkel et sa légendaire modestie.
C'est à vous que je pose aussi la question. Merci Nathalie Bruce de Galzin depuis l'Italie. Qu'est-ce qu'on dit de ce style-là et de ce changement potentiel qu'il devrait y avoir? Est-ce qu'on en parle?
Ce qui a surtout marqué ici, c'est l'abstention. Les journaux, ils font des additions, l'abstention, les votes blancs, les nuls, et un tiers du vote, des votes contre le système, ça inquiète beaucoup et on remarque ici, le Corriere della Sera par exemple, que la France est divisée comme jamais auparavant. C'est ce qu'on met en exergue. Macron ne pourra pas gouverner comme il l'a fait pendant ces 5 dernières années. Donc oui, il va devoir changer et les élections législatives pourraient bien l'y pousser.
Et merci beaucoup, merci à tous. Vraiment, on reprendra cette discussion dans le téléphone sonne, tiens, dans un tout petit instant. Merci vraiment et à très bientôt.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse. Sur France Inter.
La suite, ce sont les notes vocales d'Ukraine de Caroline Gillet avec Anastasia, dont on n'a pas eu de nouvelles pendant 2 semaines. Vous allez entendre son récit et comprendre les raisons de son silence. Et puis pour aller jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Legénie.
On ira en Allemagne qui juge depuis ce matin les crimes commis sous la dictature gambienne de 1996 à 2016.
Le Monde selon Biden et Loïc Loury. Bonsoir Loïc.
Bonsoir Fabienne, la France attend les législatives en Amérique, ce sont les mid-terms, c'est dans 6 mois et ça s'annonce mal pour Joe Biden.
Allez, le monde d'après, c'est vous Claude Guibal ce soir, bonsoir Claude.
Bonsoir, nous on va parler vente d'armes, Fabienne, c'est hélas tristement d'actualité, sachez que sur la planète, on n'a jamais autant dépensé pour s'armer.
Allez, à tout de suite tout le monde, le tour de la planète continue en passant par le Liban et le mélange de musique traditionnelle et électronique de Soapkills, Tango, c'est le titre et c'est sur France Inter.
تعال نجد المنى والغرام كفنا البعد وايام تعال قبل انقضاء الشباب وموت الحب وانقطاع الرذاب انت الهوى انت ملء الاماني حياتي انت فداك انت دنيا الغد الاحلام الغد والقبل وكل الامل تعال نجد المنى والغرام كفنا البعد وغيام تعال قبل انقضاء الشباب
وموت الحب وانقطاع الرذا. أنت الهوى أنت ملء الأمان حياتي أنت فداك أنت دنيا الغدا الأحلام الغدا والقبل وكل الأمل. تعال نشد المنى والخراب كفنا البعد وغيان تعال قبل انقضاء
du monde. Commence tous les lundis par les notes vocales d'Ukraine de Caroline Gillet. Bonsoir Caroline.
Bonsoir Fabienne.
Les notes vocales d'Ukraine, ce sont des journaux de bord d'une dizaine d'Ukrainiens, d'Ukrainiennes qui témoignent sous pseudo, racontent avec leur téléphone comment ils traversent cette guerre. Et aujourd'hui, on est ravis de retrouver Anastasia après 2 semaines d'absence. Et vous allez nous aider à comprendre pourquoi, Caroline, on n'avait pas eu de nouvelles grâce au récit d'Anastasia.
Voilà, Anastasia, on la suit ici depuis début mars. Elle a participé aux manifestations courageuses contre l'occupation russe dans sa ville de Kherson. Elle a voulu témoigner de ça ici et de la situation qui se dégrade chez elle. Elle souhaitait mais ne pouvait pas quitter la ville, pas de voiture. Et la priorité pour les passeurs, c'est de favoriser le départ des femmes avec enfants. Et puis un jour, on apprend ça. Quelques mois avant la guerre, Anastasia et son copain avaient placé une webcam sur leur balcon pour prévenir les cambriolages. Le 7 avril dernier, les militaires russes l'ont repérée, cette webcam, et sont montés chez elle. Voilà ce qui s'est passé.
Ils ont pris nos téléphones et ont lu toutes les conversations personnelles, posaient des questions, combien on nous a payé pour les manifestations à Kherson. Et ils nous ont appelé nazis pour la phrase « gloire à l'Ukraine » qu'ils ont trouvée dans nos messengers. Finalement, ils ont décidé de me donner, comme ils disent, une nouvelle vie en formatant complètement mon téléphone. Alors, tout était complètement supprimé. Ensuite, une heure après qu'ils sont partis, ils nous ont appelés au téléphone et invités de venir chez eux le lendemain pour parler. Normalement, je dors très très bien, même s'il y a les bombardements, je dors très fort. C'est mon copain qui entend tout et me réveille. Mais cette nuit-là, je pensais de tout ce qui peut arriver avec moi. Par exemple, déportation à l'est de la Russie, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Ou par exemple, si je vais dans la prison de Kherson, c'est ce qu'on fait aussi avec les gens. Ou même la violence. J'ai vécu tout ça dans ma tête, parce que je sais bien qu'il faut se préparer au pire. Et comme ça, ça sera plus facile de le vivre si quelque chose arrive avec moi.
Finalement, Anastasia décide de ne pas aller au rendez-vous fixé par les militaires. Des personnes l'aident à se cacher dans un appartement dont à ce jour, elle ne connaît toujours pas l'adresse.
Nous sommes restés là pendant une semaine. On n'utilisait pas vraiment le téléphone parce qu'on ne voulait pas que les Russes nous trouvent. Voilà. Alors, le dimanche matin, nous sommes partis à 6 heures du matin. Nos parents nous suivaient en voiture. C'était le plus long trajet dans ma vie. Il y avait plusieurs points de contrôle militaire avec les drapeaux russes. Mais nous sommes partis très très tôt le matin et roulés vraiment très vite à travers les champs. Le plus dangereux, c'était peut-être la zone grise. C'est la zone ni contrôlée par les Russes, ni par les Ukrainiens. Et c'est vraiment la zone où il y a les batailles. Mais à ce moment-là, c'était calme. Et dans 2 heures du route, on était déjà sur le territoire contrôlé par les Ukrainiens.
Peu après son arrivée à Odessa, je reçois un message de sa part, peut-être désormais mon message préféré de tous les temps. Elle écrit juste « Salut, je suis à Odessa », emoji pouce et emoji avec des lunettes de soleil. Anastasia et sa famille ont décidé de s'installer là, chacun son appartement, loué très bon marché sur Airbnb vu le contexte, et d'où elle peut continuer à travailler en ligne. Avant-hier, voilà le message que j'ai reçu.
Je suis arrivée chez mon frère maintenant. C'est la première fois que je le visite. On est très contente aujourd'hui. C'est la fête. On peut oublier de travailler un peu. On a acheté de la champagne. Ici, on peut acheter d'alcool avant 3 heures d'après-midi. Alors, on est à l'heure. Aujourd'hui, il fait beau. Il n'y a pas de vent. Chaque jour, ça devient de plus en plus pire qu'avant à Kherson. Là, on ne fait pas des choses comme à Boucha ou Mariupol, mais on dirait que dans chaque ville, il y a un autre style de terreur de l'armée russe. Maintenant, on va essayer de créer une vie normale ici à Odessa. Je vais essayer de faire du sport, prendre les cours de conduite pour obtenir le permis. Je veux vraiment acheter une voiture pour avoir la possibilité, par exemple, de nous déplacer rapidement à n'importe quel moment. On verra. Pendant que je parle, j'entends la sirène. Demain, c'est la Pâque orthodoxe. Alors, on a un sentiment comme de la fête ici, même si on entend les alarmes. Mais on peut entendre aussi beaucoup des oiseaux. On voit les arbres qui commencent à fleurir. Même, ça nous donne un sentiment de la vie normale, même s'il y a la guerre dans notre pays. Après l'expérience qu'on a eue à Kherson, ici, je peux dire que la vie recommence.
Elle a eu la peur de sa vie, Anastasia Caroline, oui. Apparemment, et on peut comprendre. Et vraiment, on la remercie beaucoup. Il faut ajouter que c'est elle qui souhaite continuer à témoigner, qu'on entende à nouveau sa vie dans les prochaines semaines et qu'on la retrouve aussi sur franceinter.fr puisque tous les témoignages y sont. Merci à vous aussi, Caroline.
Merci,
merci, à lundi prochain.
Zum Verkündungstermin, nehmen Sie bitte zunächst Platz.
Et dans Sous les radars, Sébastien Legénie, nous sommes là dans un tribunal allemand, l'Allemagne qui juge à partir d'aujourd'hui les atrocités commises sous la dictature gambienne.
Oui, on parle ici de l'ancien président gambien Yahya Jammeh, resté 20 ans au pouvoir entre 1996 et 2016, à la tête de ce petit pays d'Afrique anglophone de 2 millions d'habitants. Yahya Jammeh, accusé de torture, d'exécution sommaire, de détention arbitraire, de disparition forcée et de viol. Son bras armé avait un nom, les Junglers, les broussards, les hommes de la brousse, des escadrons de la mort chargés de tuer tous ceux qui s'opposaient à son pouvoir. Et parmi ces hommes, un Gambien de 46 ans, Baylov, poursuivi à partir d'aujourd'hui en Allemagne sur la base de la compétence universelle des tribunaux allemands. Il est soupçonné du meurtre d'un journaliste de l'AFP et de crimes contre l'humanité. Un premier procès de la dictature gambienne très attendu par les défenseurs des droits de l'homme en Gambie. Cet analyste politique gambien se dit optimiste pour les suspects arrêtés en dehors du pays. Les pays comme l'Allemagne qui dispose du principe de juridiction universelle s'occuperont d'eux. Ces personnes devront faire face à la justice. Mais il est plus pessimiste pour les coupables vivant en Gambie. Certains d'entre eux pourront échapper, dit-il, à toute punition. En Gambie, le chemin en effet paraît encore long avant que la justice passe. Une commission Vérité et Justice a recommandé de renvoyer l'ancien président devant un tribunal international. Mais Yahya Jammeh est actuellement en fuite en Guinée équatoriale.
Un autre pays dirigé d'une main de fer, le Nicaragua de Daniel Ortega, qui se coupe du reste du monde chaque jour un peu plus.
Et dernière décision en date, le Nicaragua a annoncé la nuit dernière qu'il quittait immédiatement l'Organisation des États américains, l'OEA, qualifiée par le gouvernement nicaraguayen, je cite, de diabolique instrument du mal, un infâme organisme, un monstre au mécanisme trompeur, rien que ça. Alors pourquoi tant de haine? L'OEA est un organisme créé en pleine guerre froide qui rassemble une majorité de pays du continent américain pour favoriser le libre-échange. libre-échange, défendre la démocratie, lutter contre la corruption, bref, une institution de l'impérialisme américain pour ses opposants. Péché originel aux yeux d'Ortega, l'OEA n'a jamais reconnu sa réélection en novembre dernier. Et puis il y a eu ce discours très inattendu de l'ambassadeur du Nicaragua, pardon, lui-même auprès de l'OEA, Arturo Macfield.
Dénoncer la dictature de mon pays n'est pas facile.
Dénoncer la dictature de mon pays n'est pas facile, mais continuer à se taire, à défendre l'indéfendable est impossible. Je dois parler même si j'ai peur, je dois parler même si mon avenir, celui de ma famille est incertain, je dois parler parce que si je ne le fais pas, les pierres elles-mêmes parleront pour moi. Voilà un haut fonctionnaire nicaraguayen qui dit tout haut ce que des centaines de milliers de citoyens pensent tout bas, un affront impardonnable pour le président du Nicaragua dont la réélection, je le rappelle, a coûté la vie à 300 personnes.
Et on termine au fin fond de la Corée du Sud avec la nouvelle coqueluche de la cuisine mondiale.
Elle s'appelle Jeong Kwan et ce n'est pas une chef cuistot comme les autres. Jugez-en plutôt, Jeong Kwan est une nonne bouddhiste de 65 ans qui a passé sa vie dans un monastère reculé de la Corée du Sud à faire la cuisine pour des moines. On entend là un reportage sur cette chef devenue désormais une star de la cuisine internationale, rendue célèbre grâce à l'émission américaine Chef's Table, diffusée sur Netflix, récompensée cette année par le prix Icon Award comme l'un des 50 meilleurs restaurants d'Asie. Pas de menu extravagant, 12 plats dans son monastère, mais un art culinaire écologique poussé à sa perfection. Cuisine 100% végétalienne, conformément aux préceptes du bouddhisme, à base de choux, de champignons, de baies sauvages, de céleri rave. Le respect des saisons et du légume avant tout. Il faut varier, dit-elle, la préparation en fonction de l'état de la matière première. En clair, dit-elle, les feuilles d'une plante sauvage peuvent être consommées avec une pincée de sel, mais si elles sont vieilles de 10 jours, il faut ajouter de la sauce soja pour que notre corps puisse les accepter. Autrement dit, une cuisine méditative dont Fabienne, on ferait bien de prendre de la graine.
Très bien, Sébastien. Écoutez, pendant que vous mangez en pleine conscience, voici trois Britanniques qui se mettent ensemble pour un titre qui s'appelle Darjeeling, FK Twigs, Georgia Smith et Unknown Tea sur France Inter et dans Un jour dans le monde.
You're not alone. I'll wait to the end of time. Open your mind. Surely it's plain to see.
AOT attract superstar. Crystal Palace, brat, brat, brat. Lymphic Christie Stadium. Every Tuesday, flagging a boy. Athletes low key, capping the law. Croydon College, stacking up wall. Love so big, I gave him my all. East or South, we're dreaming it all. Body hot, like cooking for long. We like to make love, like whilst the dogs. I was on his side, 55 to making a pro. Body hot, like cooking for long. We like to make love, like whilst the dogs. I was on his side, East or South, we're dreaming it all.
Ran towards the last thought I could found, yeah. Something bigger than the town that I had left behind. I remember packing on my bags, not saying my goodbyes. Warsaw used to be a place I'd only ever start my dreams in, but home is where my heart is. Feel so alone in a city so big, cause I used to know the person that lived at 23 and try to smell the flowers that weren't on the common green. Getting off the 6 of oysters just to spend my baby.
And I was just getting to know myself, the city it broke me in. Inside, dialing my confidence up about my hair and my skin, yeah.
You're not alone, I'll wait till the end of time. Open your mind, surely it's plain to see.
AOT attract superstar, Crystal Palace, brap, brap, brap. Lymphic Christie Stadium, every Tuesday flagging a boy. Athletes low key capping a lot. Croydon College stacking up what? Love so big, I give my all. East or South, we're dreaming of.
Listen,
all.
Had to clean up my heart, mind, body, and soul. The London city's my home. She love me, fair, come, babe, leak at your toes. Put bricks in the sticks, can we remake though? Invest my flow, to my young boy, look in your book and grow. Back then, he's the boot, like we do up pro. Now his fins, we part from the block, back days, cause we show down shows. Shows. Should I choose that Gucci or LV coat? Yo, I'm black and no hood on glow. The bandos beaming, my pastry comes from rotating phone. Gun step to the hood's gone clear, so much patience is greatness, can we bake and toast? Don't go scar practice, makes perfect, girl, if you don't know, leave it to me, I'll call.
FK Twigs avec Georgia Smith et Unknown Tea Darjeeling sur France Inter. Allez, on quitte le Royaume-Uni pour les États-Unis.
France Inter, un jour dans le monde.
I pledge to be a president who seeks not to divide.
l'Amérique de Joe Biden. Et c'est Loïc Loury qu'on va rejoindre dans un tout petit instant avec un président américain qui, bien sûr, a félicité Emmanuel Macron pour sa réélection. Loïc, des relations qui sont bonnes entre les deux présidents. Il n'y a pas de raison que ça change, en gros.
Non, effectivement, je me réjouis du résultat de cette élection, disait ce matin Joe Biden en revenant à la Maison-Blanche après un week-end dans le Delaware. Hier, c'est sur Twitter qu'il avait salué déjà la victoire d'Emmanuel Macron et évoqué trois axes de coopération. Le soutien à l'Ukraine, la défense de la démocratie et la lutte contre le réchauffement climatique. La France, assure-t-il, est un partenaire clé des États-Unis face à ces défis. Joe Biden devrait le lui redire aujourd'hui par téléphone, car pour l'anecdote, eh bien, il explique ne pas avoir pu joindre hier son homologue. J'ai eu son équipe et il passait un bon moment à la Tour Eiffel, affirme le patron de la Maison Blanche. Quoi qu'il en soit, les relations sont bonnes effectivement entre les deux hommes, exception faite de la fameuse affaire des sous-marins australiens. Mais bon, faute avouée, Fabienne, faute à moitié pardonnée.
Allez, côté américain, la prochaine échéance électorale, en tout cas, ce sont les midterms. Ce sera le 8 novembre prochain. Les Américains appelés à renouveler la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Rien n'est perdu, mais les pronostics ne sont pas bons du tout pour le président. Américain.
Et non, Joe Biden stagne autour de 40% de popularité dans les sondages et il entraîne par le fond son propre parti. Alors certes, le chômage est au plus bas, mais l'inflation, préoccupation numéro un des Américains, elle atteint des sommets, d'où l'inquiétude à l'approche de ces mid-termes de perdre une voire deux chambres au Congrès. Les démocrates y disposent actuellement d'une majorité très étriquée, déjà insuffisante pour voter de grandes lois sur le social, l'environnement, les armes ou les inégalités raciales. L'électorat progressiste s'en est lassé depuis un peu plus d'un an. Les républicains, eux, sont remobilisés. La sénatrice démocrate, ex-candidate à la présidentielle, Elizabeth Warren, met en garde ici sur CNN.
Il nous reste moins de 200 jours avant l'élection et les familles américaines souffrent. Notre boulot, tant qu'on a la majorité, est de faire ce qu'on a promis au nom de ces familles. Il y a tant de choses que nous pourrions faire et si nous n'y parvenons pas, nous allons avoir de vrais ennuis. Les démocrates vont perdre.
D'autant plus qu'historiquement, ces élections de mi-mandat sont une plaie pour le président en exercice. Donald Trump en sait quelque chose, mais Barack Obama aussi. A noter, Fabienne, que certains voient la réélection d'Emmanuel Macron comme un signe positif pour Joe Biden, le président français élu malgré une popularité assez faible. Mais le parallèle, franchement, semble assez peu convaincant.
Et puis chez les Républicains, rapidement, Loïc, Donald Trump fait toujours la pluie et le beau temps, évidemment, et l'ex-président devrait peser tout son poids dans ces élections à mi-mandat.
Ouais, la preuve avec une histoire dont on a beaucoup parlé la semaine dernière. Pour comprendre, il faut revenir au 6 janvier 2021, le jour des fameuses émeutes du Capitole. La démocratie américaine est en péril, le camp républicain se fissure malgré la toute-puissance de Donald Trump. Certains poids lourds de son parti l'accusent d'avoir mis le feu aux poudres. C'est le cas du leader républicain à la Chambre, Kevin McCarthy. Il souhaitait à l'époque pousser son président vers la démission. C'est ce que révèle une enquête du New York Times, enregistrement téléphonique à l'appui.
De ce que je sais de lui, et vous le connaissez aussi, vous pensez vraiment qu'il démissionnerait ? Je crois que je vais l'appeler. Et ma recommandation serait qu'il quitte le pouvoir. J'en peux plus de ce type. Ce qu'il a fait est inacceptable. Personne ne peut défendre ça. Personne ne devrait le défendre.
Voilà, sauf qu'ensuite, rien du tout, les républicains sont rentrés dans le rang. Kevin McCarthy a voté contre la destitution de Donald Trump. Ses enregistrements aujourd'hui le mettent donc dans l'embarras, car sans le soutien de l'ex-président, eh bien sa carrière politique est en péril. Résultat, Kevin McCarthy a immédiatement appelé Donald Trump pour faire amende honorable. CNN parle ce matin d'une génuflexion. C'est la preuve, dit Bloomberg, de l'emprise du milliardaire sur son parti. Une emprise idéologique, mais aussi financière, puisque Trump, Fabienne, dispose déjà d'un trésor de campagne de 125 millions de dollars pour ses midterms.
Loïc Loury avec nous depuis New York. Merci beaucoup.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après de Claude Guibal ce soir. Claude, vous avez sous les yeux un rapport rendu public aujourd'hui disant que jamais le monde n'a autant dépensé pour acheter des armes.
Ouais, le chiffre est tellement vertigineux, Fabienne, qu'il ne veut presque rien dire. Plus de 2000 milliards de dollars, c'est ce que le monde a dépensé l'an dernier pour s'armer, selon les données recueillies par l'International Peace Research Institute de Stockholm dans son rapport annuel. Alors cette somme, pour avoir un outil de comparaison, c'est grosso modo le PIB du Canada et c'est surtout un record établi avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Je vous donne donc d'ores et déjà rendez-vous dans un an, même lieu, même heure, pour faire le bilan de cette année qui commence. Franchement, ça va être faramineux, parce que ce rapport, c'est pas une grosse surprise, hein, l'actualité nous le rappelle, nous vivons une époque guerrière, une époque de montée des tensions, de multiplication des crises, comme on n'en a pas connu depuis très longtemps.
Et du coup, face à la menace, chacun se réarme.
Oui, on va des pays comme l'Allemagne se mettre à investir de façon sensible dans leur budget militaire. Cette tendance, par exemple, en Europe, elle est en hausse continue depuis 7 ans, et coïncidence ou pas, c'est notamment intervenu au lendemain de l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014.
Alors, qui est le plus gros consommateur d'armes de la planète, Chloé ?
Alors, le pays qui dépense le plus, Fabienne, ce sont les États-Unis. Ils investissent beaucoup dans la recherche, le développement d'armes de haute technologie. Ils vendent aussi beaucoup. L'industrie de l'armement américaine réalise plus de la moitié des ventes d'armes au monde. Il faut dire que c'est une industrie compétitive en termes de qualité. On vient d'en parler, l'investissement technologique. Elle est aussi compétitive en termes de prix face à des industries d'armement national de pays plus petits qui privilégient une forme de souveraineté. C'est le cas de la France, par exemple, qui ne leur permet pas nécessairement de faire des économies d'échelle.
Et en même temps, ce que montre ce rapport, Claude, c'est que les ventes d'armes, c'est aussi évidemment de la stratégie géopolitique.
Évidemment, parce que les ventes d'armes, ça permet effectivement de conclure des partenariats stratégiques. Et là-dessus, les États-Unis sont très forts. Et la France l'a bien compris à ses dépens l'an dernier. Vous vous souvenez, cette vente d'armes, mais de sous-marins militaires à l'Australie, qui a donc capoté alors que tout était prêt, parce que l'Australie a choisi d'un coup de se mettre sous le parapluie américain, encore au cœur de l'accord régional de défense à AUKUS, pour contrer les ambitions de la Chine dans le Pacifique. Parapluie américain avec système de défense américain. C'est exactement le même principe avec l'OTAN. Un bouclier américain qui amène les pays désireux de rejoindre l'OTAN, la Suède par exemple, à considérer d'un peu près des commandes américaines.
Et puis alors, vous évoquiez les ambitions chinoises. La Chine, c'est justement elle qu'on retrouve en deuxième position des dépenses militaires.
En 10 ans, cette Chine, elle a augmenté ses dépenses d'armement de 72%. Une montée donc de sa puissance militaire qui vient donc consolider son extraordinaire puissance économique et puis ses ambitions de rayonnement. Tout ça, ça nous amène au troisième pays en matière de dépenses militaires, l'Inde, autre géant. Vous vous souvenez que c'est le premier client de la France, qui est, elle, le troisième exportateur d'armes au monde, derrière les États-Unis et
la Russie.
Et la Russie, oui, qui consacre plus de 4% de son PIB aux dépenses militaires, un budget qui a grimpé l'an dernier juste avant l'invasion de l'Ukraine. Alors cette guerre en Ukraine, elle ravive évidemment par son côté anachronique le spectre des guerres mondiales du siècle dernier. Elle oblige de nombreux pays, au-delà même de l'Europe, à repenser la question de leur budget militaire. Et ça, Fabienne, ça n'est jamais une bonne nouvelle.
Claude Guibal et le monde d'après, tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Pour nous, le 18-20, la suite, ça continue avec le journal d'Hélène Philly dans un tout petit instant. Et puis le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous. Ne changez rien.